Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Hermann Göring, le dauphin d'Hitler, François Kersaudy propose une vaste biographie historique consacrée à l'un des principaux dirigeants du Troisième Reich. L'ouvrage suit Hermann Göring depuis sa formation militaire et sa notoriété de pilote durant la Première Guerre mondiale jusqu'à sa place de successeur désigné d'Adolf Hitler, puis à son effondrement politique et judiciaire. Son propos n'est pas de réduire le personnage à la caricature du dignitaire nazi fastueux. Corpulent et déclinant, il s'agit d'examiner les ressorts d'une ascension, les fonctions concrètes du pouvoir qu'il a exercé et les responsabilités qu'il a assumées au sein de la dictature. Kersaudy replace ainsi son sujet dans les institutions nazies, la guerre aérienne, les rivalités de cour et la dynamique de la défaite allemande. Fondé sur une documentation internationale abondante et présenté selon une progression chronologique, le livre associe le récit biographique à une analyse politique et militaire. Il montre comment prestige, ambition, dépendance envers Hitler et incapacité à assumer l'échec se combinent dans une trajectoire centrale pour comprendre le régime nazi. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, du héros de l'aviation au militant nazi, les conditions d'une ascension politique. Kersaudy part d'un fait essentiel pour éviter une lecture rétrospective. Göring n'entre pas dans l'histoire comme un bureaucrate quelconque du nazisme, mais comme un officier décoré et un as de l'aviation allemande de 1914-1918. Ce capital de prestige compte dans l'Allemagne de l'après-guerre, où la défaite, les frustrations nationales et la crise politique favorisent la valorisation de figures militaires. La biographie examine la reconversion difficile de cet ancien combattant et sa rencontre avec Hitler, qui donne une direction politique à son besoin de reconnaissance. Göring apporte au mouvement nazi une respectabilité relative auprès de certains milieux conservateurs, militaires et économiques, tandis que le parti lui offre un espace d'ascension exceptionnel. Son talent relationnel, son assurance et son aptitude à occuper la scène publique deviennent des ressources politiques. L'analyse ne présente cependant pas cette progression comme l'effet d'un seul charisme personnel. Elle la replace dans la désagrégation de la République de Weimar et dans la stratégie du NSDAP pour conquérir des soutiens au-delà de son noyau militant. Cette première partie éclaire donc un mécanisme plus large. Les régimes autoritaires ne s'installent pas seulement par la violence, mais aussi en agrégeant des élites, des symboles de prestige et des ambitions individuelles. Le parcours de Göring rend visible cette convergence, sans atténuer son engagement volontaire dans le projet nazi. Deuxièmement, le lien avec Hitler, une loyauté qui ouvre le pouvoir mais interdit l'autonomie. L'un des axes les plus importants du livre est la relation de Göring à Hitler. Kersaudy décrit une fidélité qui ne se limite pas à une alliance opportuniste, elle structure la carrière, les décisions et finalement la chute du maréchal. Parce qu'il est un compagnon ancien du mouvement et un interlocuteur utile au Führer, Göring accumule les titres et les positions responsables politiques. Chef de la police prussienne dans les débuts du régime, dirigeant de la Luftwaffe et successeur officiellement désigné. Cette concentration de fonctions pourrait suggérer une grande indépendance. La biographie montre au contraire qu'elle repose sur la faveur personnelle d'Hitler et demeure donc fragile. Göring cherche les marques de confiance, adapte son comportement aux attentes du chef et peine à soutenir une contradiction durable lorsque les choix du régime deviennent désastreux. Cette dépendance explique une part de son inefficacité, préserver son rang et l'illusion de sa compétence passe souvent avant une évaluation franche de la situation. Elle permet également de comprendre comment une dictature personnalisée affaiblit ses propres cadres. Les responsabilités sont étendues, mais l'autorité réelle reste suspendue à l'arbitrage du dirigeant suprême. En suivant cette relation sur la longue durée, Kersaudy ne transforme pas Göring en simple exécutant. Il met plutôt en évidence la combinaison de servilité, de calcul et de participation active qui caractérise un des piliers du système hitlérien. Troisièmement, la Luftwaffe et la guerre, l'écart entre la mise en scène de puissance et les résultats militaires. Le commandement de l'aviation allemande constitue le terrain où l'image de Göring comme homme de puissance se heurte le plus visiblement aux exigences de la guerre. En tant que chef de la Luftwaffe, il bénéficie d'un immense prestige, renforcé par les succès initiaux de l'Allemagne nazie. Mais Kersaudy suit la manière dont les promesses excessives, les erreurs d'appréciation et la difficulté à reconnaître les limites matérielles de l'arme aérienne contribuent à sa disgrâce. La bataille d'Angleterre est un tournant, l'incapacité de la Luftwaffe à contraindre le Royaume-Uni, contrairement aux attentes affichées, atteint directement sa crédibilité auprès d'Hitler. Les revers ultérieurs confirment ce déclin, notamment lorsque l'aviation ne peut accomplir les missions qu'on lui assigne dans une guerre devenue mondiale et industrielle. L'intérêt de cette analyse est de dépasser la simple liste des échecs. Elle montre que la compétence militaire dans un régime dictatorial est déformée par la concurrence entre dirigeants, le culte du chef. la propagande et la peur de transmettre de mauvaises nouvelles. Göring conserve les insignes et le faste du commandement, mais son influence opérationnelle se réduit à mesure que les résultats se détériorent. Le livre associe ainsi l'histoire d'un homme à une leçon institutionnelle lorsqu'un responsable promet l'impossible et que le système décourage la contradiction. L'apparence de maîtrise peut survivre bien après la perte de capacité réelle. Quatrièmement, pouvoir policier, prédation et responsabilité dans l'État nazi, la biographie ne s'en tient pas au Göring aviateur ou au personnage de cour. Elle rappelle sa participation précoce à la consolidation de la dictature, notamment à travers les appareils policiers prussiens et la répression des adversaires du nazisme. Cette dimension est indispensable, elle replace son rôle dans la violence d'État qui rend possible l'élimination des libertés politiques et l'installation du régime. Kersaudy analyse également une personnalité attirée par les privilèges, les collections, les résidences et les signes spectaculaires de rang. Ces éléments ne relèvent pas seulement de l'anecdote pittoresque. Ils révèlent une manière de concevoir le pouvoir comme appropriation personnelle de ressources, de prestige et d'impunité. La fortune et le décor servent à la fois la vanité de Göring et la représentation du nouveau régime auprès de ses élites. Toutefois, l'ouvrage évite de laisser ses excès masquer l'essentiel, la prédation matérielle. L'exercice de la police et la participation aux structures du Reich font de Göring un acteur du système criminel nazi, non un simple dignitaire excentrique. Sa défense ultérieure, fondée sur la minimisation ou le déplacement des responsabilités, apparaît d'autant plus significative. Le livre insiste ainsi sur l'écart entre l'image que Göring cherche à préserver, celle d'un chef d'État ou d'un soldat, et les conséquences politiques et humaines de son action, au service de la dictature. En dernier lieu, déclin, procès de Nuremberg et refus du remords, l'échec final du dauphin. La dernière phase de la trajectoire de Göring donne au livre sa portée morale et politique la plus nette. Lorsque la guerre tourne contre l'Allemagne, sa position se dégrade, Hitler le méprise de plus en plus, d'autres responsables gagnent en influence, et le successeur désigné devient un dignitaire affaibli. Kersaudy relie cette marginalisation aux défaites militaires, mais aussi aux traits mêmes qui avaient soutenu son ascension goût des honneurs. Tendance à la fuite devant les responsabilités et dépendance à l'égard du chef. Le procès de Nuremberg constitue ensuite un moment de dévoilement. Göring y tente de défendre son rôle, de réaffirmer sa stature et de contester l'accusation portée contre lui. Pourtant, la condamnation à mort rend manifeste l'écart entre les prétentions du maréchal et la responsabilité historique qui lui est imputée. Son suicide au cyanure, avant son exécution, achève cette trajectoire sans la résoudre, il lui permet d'échapper à la pendaison, non au jugement de l'histoire. Cette conclusion ne se réduit donc pas à un dénouement dramatique. Elle met en lumière le refus persistant du remords et la logique d'auto-justification des dirigeants nazis. En accordant une place substantielle à Nuremberg, Kersaudy montre comment la justice d'après-guerre confronte les responsables à des crimes qu'ils ont servis, organisés ou rendus possibles, malgré leurs tentatives de dilution de responsabilité. En conclusion, Hermann Göring, le dauphin d'Hitler, s'adresse en priorité aux lecteurs d'histoire du Troisième Reich, de la Seconde Guerre mondiale et des élites dirigeantes nazies. Il intéressera aussi ceux qui connaissent surtout Göring par les images de propagande, ses excès personnels ou le procès de Nuremberg et qui souhaitent comprendre sa fonction politique réelle. Le bénéfice intellectuel principal du livre est de restituer les liens entre une trajectoire individuelle et les structures d'une dictature prestige d'anciens combattants. Accès aux appareils de coercition, compétition pour les fonctions, subordination au chef, puis désorganisation croissante face à la guerre totale. Cette perspective aide à ne pas confondre richesse de détails biographiques et relativisation de la responsabilité, la complexité du personnage ne l'excuse jamais. L'ouvrage se distingue parmi les biographies de dignitaires nazis par l'ampleur de son cadre chronologique et par son effort pour tenir ensemble le politique, le militaire et le privé. Kersaudy ne traite pas Göring uniquement comme le commandant défaillant de la Luftwaffe, ni uniquement comme le collectionneur extravagant ou le prévenu de Nuremberg. Il en fait un observatoire du fonctionnement du régime hitlérien, de son ascension à son effondrement. La documentation mobilisée et la narration chronologique favorisent une lecture suivie, tandis que l'attention aux contradictions du personnage évite le portrait univoque. C'est donc une référence utile pour qui cherche une étude développée, rigoureuse et sans complaisance sur le second personnage du Reich, ainsi que sur les mécanismes par lesquels le pouvoir autoritaire transforme ambition, loyauté et irresponsabilité en instruments de catastrophe historique. Si vous souhaitez soutenir François Kersaudy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.